C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Ben, le premier sujet s'impose pour nos commissaires ce matin, le plan présenté par Québec hier pour ramener et garder dans le réseau quatre catégories d'employés infirmières, infirmières auxiliaires, inhalo, avec des primes, des montants de 12 000 à 18 000 $. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, M. Ferrandaise?
Oui, ça va marcher. Moi, je pense que ça va au moins marcher à moitié. Donc, évidemment que c'est pas la solution. La solution, on va en parler tantôt, mais dis-toi bien là, que, premièrement, ça s'ajoute au salaire. Puis le salaire, les conventions collectives qui ont été signées, 30 % d'augmentation sur 3 ans, 38 % pour les premiers échelons. Tu rentres avec 15 000 $ dans tes poches. Oups, tu payes ta carte de crédit au complet. Commande un petit réserve un petit resort pour cet hiver. Peut-être que tu payes tes paiements d'auto. Puis après, tu rentres avec un salaire de plus que 30 % par année, 10 % de plus par année pendant 3 ans. Je pense que ça va avoir un effet. Ceci étant dit, les infirmières sont sorties ce matin pour dire « Ben non, c'est de la poudre aux yeux, ça marchera pas. » Finalement, on en a engagé des milliers d'infirmières depuis 3 ans, puis ils partent. Fait que si tu les engages, puis ils s'en vont, ça donne quoi d'en engager plus? Bon, premièrement, il y a peut-être la possibilité qu'en engageant beaucoup plus, tu viennes combler l'absentéisme, puis les pénuries, puis que là, le TSO diminue. Ça, c'est un scénario possible. Il faudra pas que la COVID frappe encore plus fort. C'est une possibilité. Mais l'autre possibilité, évidemment, c'est que, et là, les infirmières ont raison, le syndicat, je veux dire, c'est l'organisation du travail. Mais il n'y aura pas d'organisation du travail différente tant que la convention collective ne sera pas négociée. Donner plus d'autonomie.
Appliquer, je veux dire, parce que...
Appliquer, mais aussi renégocier.
Ouais.
Ben, donc, donner plus d'autonomie aux gestionnaires, donner plus d'écoute aux infirmières, moins de TSO, tout ça exige des modifications à l'organisation du travail et à la convention collective.
Nathalie.
C'est un bon début, mais c'est un plan incomplet. Moi, je dirais même que c'est un pansement sur une blessure qui va continuer de saigner. En fait, on ne s'est pas attaqué à la source du problème, mais le problème, c'est l'éléphant dans la pièce, même, j'oserais dire, c'est le temps supplémentaire obligatoire. Il faut savoir que pour une infirmière, là, le temps supplémentaire, par exemple, une infirmière qui occupe un poste à temps plein, le temps supplémentaire obligatoire, là, ça fait en sorte qu'elle va travailler parfois des 16 heures et avoir un horaire qui peut dépasser, tenez-vous bien, les 60 heures dans une semaine. Alors que si tu occupes un temps partiel, tu es infirmière, infirmier, puis on t'impose le temps supplémentaire obligatoire, ben c'est l'équivalent d'un poste à temps plein, mais mieux payé parce que ton salaire va être à temps et demi. Alors, dans ces conditions-là, le choix me semble assez facile. Alors, c'est probablement ce qui explique qu'il y a autant de postes à temps partiel chez les infirmières et les infirmiers. Et hier soir, en faisant une petite recherche, je me suis rendu compte que le problème ne date pas d'hier. Écoutez, un article paru dans le Journal de Montréal qui date du 11 octobre 2015. Plus de 50 % des infirmières travaillent à temps partiel. Et là, la présidente de l'Ordre des infirmières du Québec de s'insurger en disant que le gouvernement devrait travailler pour créer davantage de postes à temps plein. Alors, on peut se demander légitimement, hier, premièrement, pourquoi le gouvernement n'a pas annoncé la fin du temps supplémentaire obligatoire avec une période de transition, j'en conviens. Puis pourquoi ne pas annoncer davantage de temps plein pour les infirmières et les infirmiers. D'ailleurs, la problématique de la création de postes à temps plein, c'est pas seulement dans le réseau de la santé. On le connaît en éducation, on le connaît par exemple dans les centres de détention au Québec, les agents correctionnels. Combien ça prend d'années pour avoir un poste à temps plein lorsque tu es enseignant de 3 à 10 ans? Les agents correctionnels, c'est à peu près la même affaire. Alors, je pense que le gouvernement crée lui-même le problème. Et là, il tente d'apporter des solutions qui sont extrêmement coûteuses. Alors, Luc, là-dessus, je partage ton point de vue. On règle le problème à moitié, par exemple, en embauchant 3000 agents administratifs, en changeant la culture dans la gestion sur le plancher, en introduisant le concept de l'autogestion. Tout ça, c'est bien beau. Mais ce matin, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'infirmières et d'infirmiers qui sortent pour dire, ben là, non, on n'a pas besoin, c'est pas de l'argent dont on a besoin, c'est améliorer l'organisation du travail.
Mais Luc, ça devient pas un cercle vicieux. C'est-à-dire que si les gens sont pas là, tu peux pas améliorer les conditions. Tu dis, moi, je veux pas qu'il y ait de temps supplémentaire obligatoire, mais pour l'abolir, ça me prend des gens qui prennent des postes à temps plein.
C'est clair. Quand ça va mal, ça va mal. Quand ça va bien, ça va bien. Ça, c'est clair. Mais non, mais c'est vrai. Parce que quand ça va mal, ce qui se passe quoi? Il se passe absentéisme. Beaucoup d'absentéisme. Absentéisme juste là quand t'en as besoin. C'est-à-dire en obstétrique, parce qu'en obstétrique, c'est de nuit. T'sais, les bébés, eux autres, ils connaissent pas les horaires. Fait que là, ils sortent pas dans les horaires favoris de tout le monde. Là. Ils sortent la nuit, des fois. Aux urgences, même chose. Tu contrôles pas les horaires. Et là, donc, c'est dans ces domaines-là, puis c'est à ces heures-là que t'es obligé de dire, toi, tu restes. Et puis, l'employeur, quand il dit ça, j'imagine qu'il sait qu'il est en train de faire quelque chose qui nuit à l'employé, puis qui nuit à son service, puis qui nuit à long terme à l'organisation de travail. Mais il n'y a pas le choix. Rendu là, à ce moment-là, il n'y a pas le choix.
Mais pourquoi celle, puis Nathalie, je veux t'entendre aussi là-dessus, pourquoi quand on parle à des infirmières qui ont quitté le Québec, par exemple, je l'ai fait ce matin, là, il y a, en tout cas ce qu'elles disent, une différence de culture, qu'elles se sentent valorisées ailleurs alors qu'elles ne le sont pas au Québec.
Okay. Moi, j'ai une bonne réponse.
Réponse après ça, Nathalie.
Quand ça va mal, ça va mal. Je vais donner... non, mais je vais dire comment ça va mal. Si, par exemple, l'employeur, il s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont pas présents. Des gens qui ont demandé un congé parce qu'il y avait un rendez-vous chez le concessionnaire automobile, quelles que soient les conséquences de la demande de congé ce jour-là. Whatever. Il se met à mettre des règles, puis des règles, puis des règles. Puis là, ces règles-là deviennent étouffantes. Moi, je me rappelle, à la ville de Montréal, t'as, mettons, la même proportion de bons puis de mauvais employés qu'ailleurs. Mais dans les mauvais employés, ramasser les paniers de rue. C'est facile de ramasser les paniers de rue, tu sais. Mais sauf que, il y a bien des gars qui passent à côté du panier de rue. Ah, il est pas vide, je le ramasse pas. À un moment donné, en cette année, parce qu'il était à moitié plein, puis là, il ramassait pas. Fait que c'est débat. On prenait des photos des paniers de rue. Il y a quelqu'un qui passait, puis après ça, le contremaître passant derrière lui prenait une photo du fond de la poubelle pour dire, regarde, tu l'as pas ramassé. C'est une ambiance de marde. c'est un contrôle infantilisant. Les gars, s'ils pognaient l'inspecteur, là, ils couraient après avec leur camion de vidange pour essayer de le coincer dans un coin. Ils l'haïssaient. Ben, c'est ça, quand ça va mal, ça va mal.
Nathalie.
Oui, j'aime l'exemple de Luc. Effectivement, la culture d'une organisation, là, ça passe par des gestes très concrets. Tu parles de l'Ontario, Paul, les ratios patients-infirmières-infirmiers. Au Québec, c'est quoi? 14-15 patients pour une infirmière, alors qu'en Ontario, c'est 4. Plus d'autonomie également sur le plancher. Quand tu as le gestionnaire là, qui est toujours au-dessus de ton épaule puis qui dit quoi faire, puis quand ça va mal, il dit « arrange-toi avec tes troubles », excusez-moi, là, mais c'est pas une façon de valoriser ton personnel, les mettre dans le coup. Alors, les infirmières, oui, ont besoin d'être, en fait, il faut dire que l'ambiance du réseau actuellement, je vais le dire comme ça, ne contribue pas à valoriser les employés. Là, je vous parle, on parle des infirmières et des infirmiers, mais ça vaut pour les préposés aux bénéficiaires, là. En fait, le réseau est étouffant pour tout le personnel actuellement. Puis bien sûr, il y en a qui disent « je veux sauver ma peau, là, ciao, bye, moi je n'en peux plus ». Combien d'infirmiers et d'infirmières tombent malades actuellement?
Nathalie, je vais donner un exemple, parce que tantôt, j'ai donné l'exemple d'une employée, par exemple, qui irait à un rendez-vous chez son concessionnaire, quelles que soient les conséquences sur la santé des patients. Je vais donner le contre-exemple. Un gestionnaire qui s'en fout des conséquences. Par exemple, certains CHSLD, il y a des préposés aux bénéficiaires qui ne veulent plus commencer à travailler tant qu'elles ne savent pas si tout le monde est au poste. C'est-à-dire que si tu leur dis il y a 3 absents, ben on monte pas sur les étages. Tu vas nous trouver des remplaçants pour les 3 absents avant qu'on monte sur les étages. Pourquoi? Parce que c'est arrivé 1000 fois qu'un gestionnaire dit ben faites votre travail là, on va travailler avec le personnel qu'on a. Ouais, mais on devrait être 14 puis on est 6. Fait que ça marche pas là. Ça marche pas puis ça tue le monde.
Ouais. Oui, mais Luc, en même temps, moi, je veux pas qu'on jette la pierre au gestionnaire. En fait, c'est pas noir et c'est pas blanc. Il y a plusieurs zones de gris, là, parce qu'il y a des gestionnaires, moi, qui m'ont déjà écrit en disant, un instant, nous, on travaille 50-60 heures par semaine, on a la broue dans la toupette, puis on est payé pour 35, on sait plus à quel sein se vouer. C'est là que ça fonctionne pas. Alors, hier, le gouvernement, pourquoi le gouvernement n'a pas dit, on sait que c'est le temps supplémentaire obligatoire, là, qui crée des conditions, comme tu l'as dit, de merde dans le réseau.
Mais Nathalie, c'est impossible pour
l'instant. Mais non, mais t'annonces une période de transition, Luc, tu comprends? Parce que un changement de culture, tu peux pas faire ça du jour au lendemain, on s'entend là-dessus. Mais clairement, là, oui, c'est un bel effort qui a été fait par le gouvernement, mais avoir le nombre de personnes concernées, insatisfaites, tu te dis, attends une minute, le gouvernement, il en manque encore un petit bout là, dans la solution idéale à déployer pour faire face aux défis auxquels on est confronté.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, rapport des commissaires, semaine du 20 septembre, Madame Normando.
Oui, un rapport costaud cette semaine, M. Arcan. Tout d'abord, elle n'aura pas été inutile. Je parle évidemment d'élections fédérales. Au-delà du résultat, moi, j'ai retenu l'effet à peu près nul qu'aura eu la sortie à la fois du premier ministre François Legault et la montée d'hormones de notre chef du Bloc québécois, Yves François Blanchet, suite au débat en anglais. Et je conclus que les Québécois n'ont pas cédé au chant des sirènes des nationalistes et des souverainistes. En deuxième position, dans la catégorie nouvelle inusité, il y a des chasseurs qui vont se sentir interpellés. Moi, ça m'a frappé. Le Québec devra composer avec une pénurie de munitions, et en particulier pour les balles de carabine. Donc, les orignaux puis la petite perdrix vont voir peut-être un peu de répit cette année, mais il semblerait que c'est la faute aux manufacturiers qui ont eu des problèmes d'approvisionnement. Et tenez-vous bien, la faute également à l'élection américaine. L'élection de Joe Biden en a fait paniquer plusieurs aux États-Unis, puis il y a des Américains qui ont fait le plein de munitions, ce qui a contribué à créer une rareté. C'est quand même assez incroyable comme phénomène. La citation de la semaine pour moi revient à Jeff Kelly. Jeff Kelly, qui est-il? C'est l'ex-ministre libéral, c'est un anglophone. Dans la foulée du projet de loi 93 sur la protection de la langue française, il a déclaré à la presse, et je cite, « Ceux qui étaient contre le fait français sont partis à Toronto. Les Anglos qui sont restés, ce sont de fiers Québécois et de fiers Canadiens. Est-ce trop demandé que de nous laisser tranquilles? » J'ai beaucoup aimé cette déclaration. Jeff Kelly incarne l'aile très, très modérée des anglophones. On l'a vu, il y a des anglophones qui, comment dire, exaltés, se sont exprimés pour décrier le projet de loi 96. Alors, j'ai aimé cette déclaration qui contribue à, comment dire, à apaiser les ardeurs de certains. Et en terminant, mon étoile de la semaine va à Jonathan Drouin pour sa franchise et sa transparence. Il s'est confié sur ses problèmes d'anxiété et d'insomnie. Et j'ai trouvé que sa sortie contribue à briser le mythe ou le tabou de l'athlète invincible. Alors, voilà pour mon rapport de la semaine, M. Arcan.
Très bien, M. Ferrandez.
Moi aussi, je commence avec l'élection fédérale. C'est absolument incroyable. L'élection a eu lieu il y a 4 jours, puis plus personne n'en parle. C'est quand même incroyable, ça, tu sais, changement
ben,
de régime.
Parce que ça n'a pas changé grand-chose.
Ben, voilà.
On n'est pas à la veille d'un nouveau gouvernement avec des figures montantes ou il n'y a rien de ça.
Pas de nouveau programme, pas de nouvelle annonce. Incroyable. Moi, vendredi, tu me donnes l'élection, ça s'est passé il y a 2 mois, je te croirais. Parce que,
non, mais attendez, là, il va nommer son conseil des ministres, M. Trudeau, ça va repartir.
Ah, c'est là que je remarque toujours ta candeur habituelle. Ouais, il va nommer son conseil des ministres!
Mais quand même, Luc, tu ne vas pas casser mon plaisir là, aujourd'hui.
Ben, toi, une vraie politicienne, Nathalie. Là, t'aimes ça, ces affaires-là. Là. Qu'est-ce qui va avoir de l'air, ces pancartes? Puis c'est qui le conseil des ministres?
Bon, en tout cas, mais moi, c'est excitant quand oui, même. C'est excitant.
François-Philippe Champagne va aller où?
Ah oui, exactement. Diane Leboutillier qui a gagné. T'as vu, Paul? Elle a gagné, Diane Leboutillier. Oui, oui.
Ben, écoute, alors, on s'attendait peut-être qu'à peine, mais elle a gagné. Bon, en tout cas, je te félicite et je te reconnais pour ta candeur et ta passion pour la politique. Mais finalement, une élection juste avec des perdants. D'abord, le grand innocent à Trudeau, malheureusement. Là, ben,
c'est un grand
innocent. Non, c'est un grand innocent. Il a dépensé 600 millions pour rien. Puis là, il dit après, « Ah, je vous ai compris, vous en voulez plus d'élection. Vous en... Ah ben, t'as compris. C'est-tu drôle que t'as compris après l'élection, toi? » Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, O'Toole. Hey, O'Toole. Il s'est fait élire chef des Bleus en se disant qu'il allait être bleu foncé. Il a fait de l'œil à Sloan, etc. Puis là, c'est tout le contraire. En campagne, sans dire à personne, il change le bateau de bord. Tu sais, les sondages sont pas bons, toi, je vais me rapprocher du NPD. Peux-tu vraiment faire confiance au gars par la suite? J'ai de la misère à le comprendre. Ce que tu disais sur Blanchette, par ailleurs, là, en disant, il a pas perdu, ça n'a pas marché l'affaire de la levée de bouclier sur la déclaration de la présidente de Angus Reid lors du débat en anglais. N'aurait pas donné des votes. Moi, je pense que oui. Je pense que ça a donné des votes à Blanchet, beaucoup de votes à Blanchet, mais qu'au moment où ça lui a donné des votes, il était tellement dans le trou que ça n'a pas paru au final. Il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup baissé à cause du troisième lien. Et moi, j'en ai pour preuve, la candidate du Bloc québécois sur le plateau Mont-Royal, personne n'y adressait la parole avant la déclaration. C'est Mme Curl, son nom, Sachi Curl. Personne n'y adressait la parole. Et le lendemain, c'était les gens traversaient la rue pour lui dire, on va voter pour vous, on va voter pour vous. Moi, je pense que ça a marché, mais que ça faisait suite à une grosse descente. Lui aussi est perdant de toute manière dans l'élection.
Ouais, mais est-ce que je peux commenter ça, Paul, deux secondes?
Bien sûr, bien sûr.
Le Bloc est allé en élection avec 32 députés. Il souhaitait à atteindre un objectif de 40. Il en a fait élire 34. Peut-être un peu, c'est-tu le bon résultat aujourd'hui, là, compte tenu
près,
c'est 34.
Là, ouais.
Et, mais en termes absolus, Luc, là, et c'est le grand patron d'Engelschwitz qui a publié les résultats. Là,
oui,
le vote
sais.
A engrangé le bloc a engrangé moins de votes cette année. Tu vas me dire que le taux de participation n'était pas élevé, j'en conviens. Mais,
non, mais moi, je pense qu'il y a eu
quand
une
même
baisse, il y a eu une énorme baisse avec sa déclaration sur le troisième lien. Puis après ça, en fin de campagne, il y a beaucoup remonté avec la déclaration de Sacha Cohen. C'est ce que je pense. Puis en bout de ligne, c'est égal. Mais il y a eu cette hausse et cette baisse-là. Je voudrais parler un peu de M. Coderre. M. Coderre a fait une annonce surprenante hier. Il a dit il va mieux déneiger les rues. Ah, ben, Boswell. Là, quand j'entends ça, écoute, penserais d'entendre Camille Lienhoud, l'ancien maire de Montréal. À chaque élection, depuis 100 ans, il y a un maire qui dit qu'il va mieux déneiger les rues. D'abord, M. Coderre.
Il y en a eu un d'arrondissement qui a dit moi, je le ferai pas.
Voilà,
partout.
Enfin.
Il est
enfin.
En face de moi.
Oui, oui, c'est ça. Un peu d'air frais en politique. Mais non, ben. Quelqu'un m'avait.
C'est moi, je rêve.
Non, mais attends une minute, là. On va donner à César ce qui appartient à César. Denis Coderre a très bien déneigé les rues après Gérald Tremblay. Il est arrivé avec des nouvelles manières. Il a centralisé le déneigement. Il a tout enlevé ce que moi j'avais fait sur le plateau. J'avais sauvé 7 millions de dollars avec ça. Bon, toujours est-il qu'il a dit non, c'est une priorité. Hein? C'est beaucoup mieux déneigé qu'avant. Mais tu vas-tu retourner en campagne encore en disant la même chose? Je vais mieux déneiger les rues? Je sais que c'est le piton sur lequel c'est le fun d'appuyer. Là. Les gens, ils veulent qu'il y ait du parking, que les rues soient déneigées, que les taxes soient moins élevées. Mais à un moment donné, faut que tu prennes tes responsabilités. Quand la neige tombe moitié neige, moitié verglas, moitié pluie, moitié oiseau mort, c'est pas possible de s'assurer que ça soit déglacé dans l'heure. C'est ça, la vérité. Quelqu'un va-tu le dire à un moment donné? On est rendu qu'on est des souffleuses qui ont 70% de plus de poids que ce que peut supporter la rue. Même chose avec les camions de linge. Là. Les camions de neige, là, sont immense, je sais pas combien de tonnes de neige qu'il y a là-dedans, ça défonce les rues tellement qu'ils sont gros. À un moment donné, arrêtez-vous quelque part.
Luc, on est en service de proximité, c'est ça le milieu municipal?
Ben, c'est ça, c'est ce piton-là qui appuie.
Non, mais Luc, écoute, je sais que toi, t'aimes ça, les grandes affaires, là, les débats ésotériques, c'est bien beau tout ça, mais sur le plancher des vaches au quotidien, quand le monde il se promène dans les rues de Montréal, ils veulent que leur ville soit propre puis déneigée. C'est aussi simple que ça.
Je sais ce qu'il faut qu'ils fassent, Coderre. Il faut qu'il y ait une équipe de personnes avec des parapluies à l'envers qui attrape les flocons avant qu'ils touchent à terre.
Bon. Un nouveau concept ici, on va y penser en fin de semaine, ça te dérange pas. As-tu un dernier point pour conclure?
Non.
OK, parfait. Ça règle le cas. Enfin, on a fait le dosé, parfait.
Okay.
Bonne fin de semaine.
Merci. Bye.
Et on vous retrouve lundi.
C'est 23.